Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue à tous, on est en direct du salon Rennes dédié à la PropTech, en clair aux innovations sur l'immobilier, qui a ouvert ses portes ce matin. Et jusqu'à demain, nous sommes à Paris Expo, Porte de Versailles, pavillon 6, si vous voulez nous voir avec Philippe David. Si vous voulez rencontrer et toucher Philippe David, c'est le moment de venir. Ça va Philippe?
Cécile de Ménibus, ça va très bien, ça va doublement bien. Est-ce que vous me permettez de dire du bien de ce salon et de dire du bien de vous?
Absolument.
Alors,
dans
déjà,
quel ordre?
On va commencer déjà par le salon, on est merveilleusement accueillis sur le stand de Radio Imo. Vous y serez sur l'autre stand de 19 à 21, mais je voudrais vous remercier parce que vous m'avez dit, je te trouve tous mes grichons en ce moment et je vais amener ce qu'il faut. Et vous nous avez couvert de gâteaux et de cadeaux à la fois.
De qualité.
Et de qualité. Et vraiment, merci quand même d'avoir remarqué que ma ligne était vraiment très svelte en ce moment.
Et votre ligne est courbe surtout. C'est ça votre.
Pourquoi vous arrêtez si vite dans le bien que vous avez à dire.
En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous retrouver. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Hier, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale ont appelé tous ceux qui se reconnaissaient dans les valeurs de la République à participer dimanche à une grande marche civique contre l'antisémitisme, une proposition qui divise la classe politique. La France insoumise a annoncé qu'elle n'y participerait pas, tandis que le Parti communiste refuse de marcher aux côtés du Rassemblement national, Philippe.
Et vous, qu'en pensez-vous alors que les actes antisémites se sont multipliés depuis le 7 octobre? Est-ce que c'est une bonne initiative? À l'heure où Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, les présidents des deux assemblées, appellent à l'unité, la position de LFI vous dérange-t-elle? Faut-il continuer à marginaliser le RN comme le font certains partis de gauche? Est-ce que cette marche ne devrait pas être un moment d'union nationale et être totalement transpartisane? Vous irez défiler dimanche, vous n'irez pas. Venez témoigner au 0826 300 300 et à cette question sur Twitter, vous dites à 89% non, il ne faut pas politiser la marche contre l'antisémitisme.
Et on en parlera avec notre expert du jour, Yanis Roder, qui est professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis et directeur de l'Observatoire à l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. Et puis à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. La France, aujourd'hui, en France, 5,2 millions de passoires énergétiques sur 30 millions de logements pour respecter les nouvelles normes fixées par la loi climat et résilience. Il faudra isoler 600 000 logements chaque année d'ici 2028, sans quoi les logements étiquetés F et G seront interdits à la location, Philippe.
Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que ces nouvelles réglementations sont trop strictes? Est-ce que vous devez rénover votre logement et vous dites « mais je ne sais pas comment je vais payer ». Est-ce que vous pensez que les aides de l'État sont suffisantes? Est-ce que vous n'avez pas peur que certains propriétaires se retrouvent ruinés avec un appartement qu'ils ne peuvent pas, par exemple, louer? Venez témoigner au 0826 300 300.
Et notre expert du jour pour en parler, Bérénice Deville-Fleuriot, journaliste Radio Immo, sera avec nous. On vous souhaite la bienvenue en direct de Salon Rent à Paris. On parle beaucoup d'innovation, on en parlera bien entendu tout au long de cette émission. Bienvenue à tous.
Les vraies voix Sud Radio.
Et pour nous accompagner, mon cher Philippe David, un Philippe Bilger, comme d'habitude, au taquet.
Oui, mais là, j'ai mis des choses sur les oreilles, tout de même.
D'ailleurs, ça vous a décoiffé.
Oui.
Oui, mais dommage. Pourtant, il me restait un ou deux cheveux.
Et bien, on peut les compter maintenant, c'est l'avantage, puisqu'ils sont debout.
Mais j'aimerais bien que vous les clarifiez parfois, Cécile.
Oui, bah déjà, je m'occupe de ceux de Philippe David.
Le vent a mis en évidence ma calvitie.
Sophie Gauguin est avec nous, vice-présidente de la région Normandie. Bonsoir Sophie,
bonsoir.
On est ravis de vous retrouver.
Moi aussi.
Ravis de vous retrouver. Merci d'être là avec nous.
Avec grand plaisir.
Vous nous avez apporté des gâteaux de Normandie, non? Non, rien.
Non. Et je surveille la courbe de Philippe.
Oui, c'est ça.
La courbe, pas la vôtre.
Oui, c'est ça. Et Olivier Dartigol. Olivier Dartigol est avec nous, éditorialiste
bonsoir
politique. Bonsoir.
Vraie voix, je n'ai rien porté du Béarn
et
parce
pourtant,
que Philippe David n'en a pas besoin pour l'instant, attendant les fêtes.
Mais vous allez lui foutre la paix, Philippe David, c'est quand même incroyable.
Vous êtes la plus généreuse, j'avais raison.
C'est ça, mais voilà. Je vous le dis depuis le début. Allez, 0826 300 300, régulièrement vous nous laissez des messages et on vous en remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est pas facile de choisir. Et écoutez Fabrice de Paris.
Fabrice, Paris. Alors, je voulais intervenir sur le rétablissement des services militaires. Pour la seule bonne raison, c'est que je suis persuadé que c'est effectivement extrêmement bénéfique pour la jeunesse actuelle et pas uniquement ce que j'ai entendu pour les délinquants, pour toute la jeunesse, parce que c'était le seul moment dans notre vie où on était tous mélangés, que ça soit les aristocrates, les bourgeois, les gens de cité ou même les gens qui étaient jamais sortis de leur campagne. Et c'était véritablement une expérience qu'on ne retrouve jamais en dehors du service militaire, parce que évidemment, on a tendance à toujours vivre dans son carcan habituel, Et c'était un moment qui permettait d'avoir effectivement cette expérience incomparable.
Vous êtes d'accord, tiens, vous avez fait la conscription, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol. Est-ce que c'était pas une bonne chose, le service militaire? Parce que tout le monde était mélangé.
Mais tout le monde était mélangé. Parfois, c'est le rêve que je formule pour moi-même. Mais en l'occurrence, je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, vous aurez noté, et notre auditeur Fabrice a raison, c'est Édouard Philippe qui a relancé un petit peu
le week-end dernier
du service militaire.
Absolument.
Oui, il faut
Olivier d'Artigol.
Une image un peu fantasmée, carte postale sépia de ce qu'était le service militaire, dans les dernières années, il faut avouer que ceux qui ne souhaitaient pas le faire étaient plutôt...
À partir de l'annonce de Chirac en 95.
Étaient plutôt exemptés. Le sacro-saint brassage social ne se réalisait plus. Ce qui ne nous exonère pas de réfléchir à ce qui pourrait être de nouvelles formes d'engagement pour la jeune génération sur le plan de l'engagement citoyen associatif, oui.
Et pour les filles, ce serait bien, Sophie Gauguin ? Le rétablir le service militaire.
Oui, je pense que de permettre des passerelles, oui. Après, proposer des choses sur l'engagement, il y a le SNU, il mérite encore de faire ses preuves, malheureusement. Oui. Où là, il y a une mixité. On ne voit pas encore les évolutions très, très tangibles. Le remettre dans le débat, certainement, mais enfin, comment le financer? Il y a de la démagogie aussi là-dedans. Par contre, c'était très, très bien parce qu'on pouvait aussi se former, acquérir des qualifications diplômantes. Et en cela, c'était aussi un bon
élément. De conduire aussi.
Et le permis de conduire.
Absolument. 0826 300 300, notre vraie voix du jour arrive d'Arcachon et c'est Frédéric. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Bienvenue en direct du salon du Rent à Paris. Oui. Si vous avez un appartement à vendre, c'est le moment d'envoyer-nous le descriptif ou à acheter. Vous avez un coup de gueule sur certaines visites de ministres lors d'événements météorologiques.
Ah ça, j'avoue qu'entre un petit peu la désinformation, parce qu'on entend de tout et de son contraire suivant les chaînes, c'est assez déboussolant. Et puis je voulais dire aussi, alors, toutes ces visites de monsieur le ministre de l'Intérieur, franchement, qu'est-ce que ces gens apportent? Il y a un chantier, des inondations, tout ça. Je pense que leur visite totalement inutile, hein. Vous avez des préfets qui gèrent tout ça. Donc je trouve que c'en est vraiment, c'en est pénible de voir qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, on a tout ce déploiement de galonner, excusez-moi, je sais pas, parce que tout le monde est là derrière le ministre pour se faire voir, alors que les pauvres gens sont dans l'eau et tout ça. Bon, voilà, moi je pense qu'il y en a assez de ces déplacements, je dirais, tout à fait...
Inutile pour vous.
Inutile,
on va faire réagir, alors, si vous permettez, Frédéric. Est-ce que certains pensent que c'est un soutien, par exemple, Philippe Bilger?
Notre auditeur a raison, ça ne sert profondément à rien. Mais c'est un besoin de proximité et je dirais des visites presque compassionnelles. La présence d'un ministre, à tort ou à raison, fait du bien à ceux qui souffrent.
Ouais.
Sophie Gauguin.
Oui, en tant que maire, je connais ça, dans des situations difficiles. C'est sûr que c'est quand même une marque d'intérêt de la nation, même si on n'attend pas de résultats tout de suite. Et ça permet aussi de passer des messages importants sur la façon dont les services peuvent être mobilisés, comment on peut améliorer des choses. Donc, effectivement, ça ne révolutionne pas le système, mais c'est quand même une marque d'intérêt qu'il faut considérer. Après, Gérald Darmanin, il a sa stratégie de communication qu'on lui connaît très bien. Donc, je différencierai les déplacements ministériels de ceux du ministre de l'Intérieur.
Ah, mais dis donc, petite pique.
Je comprends la tonalité de notre auditeur, mais je continue à préférer le déplacement du ministre pour qu'il puisse mesurer sur le terrain la situation réelle, être en solidarité avec les personnes les plus frappées et avoir un échange avec les élus locaux. Si ça peut lui amener à apporter après des réponses plus ajustées, c'est mieux, quand bien même il y a bien sûr un exercice de communication.
Merci beaucoup Frédéric d'Arcachon, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour, vous allez devoir débattre et combattre.
Qui c'est qui l'a dit?
Débattre et combattre qui c'est qui l'a dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans un instant, les trois mots dans l'actu, ce sera avec Grégoire Daricot, journaliste Radio Imo, et avec vous, Philippe, de quoi parle-t-on?
On parle du fait que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas que l'affaire des Juifs.
On en parle dans un instant. Merci d'être avec nous en direct de Salon Rent à Paris. On fait une petite pause, on revient dans un instant.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et on est ravis de vous retrouver en direct du salon du Rent dédié à la PropTech. C'est à Paris. On parle d'innovation de l'immobilier. Ça a ouvert ses portes ce matin, destiné aux professionnels jusqu'à demain. On est à Paris Expo, Porte Versailles, pavillon 6. Vous pouvez venir nous voir, hein, toucher Philippe Bilger, toucher Olivier D'Artigol, ou, et pas Sophie, Sophie Gauguin, ni moi.
Hein. Oh bon. Non, moi je veux choisir.
Allez, dans un instant, les trois mots dans l'actu. Avec nous, Grégoire, les trois mots dans l'actu sont...
Bonjour Cécile. Alors, les trois mots, Anne Hidalgo perd près de 300 millions d'euros de taxes immobilières. Malgré les hausses, une banque a décidé de baisser ses barèmes de taux d'immobilier. Mmh. Et 26% des Français acheteurs seraient prêts à refuser un bien associé au numéro 13. Donc en trois mots, Hidalgo, taux et superstition.
Et tout de suite, le réquisitoire du procureur.
Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger.
Monsieur le procureur veut requérir contre ceux qui pensent que la lutte contre l'antisémitisme n'est que l'affaire des Juifs.
En effet, depuis l'acte barbare du 7 octobre, on aurait pu penser que cette immense tragédie ne concernait que les Juifs, où qu'ils soient. Et heureusement, la société tout entière s'est mobilisée, s'est indignée, est venu au soutien d'une cause ô combien légitime. Et c'est d'autant plus nécessaire, je trouve, que la douleur juive aurait pu parfois refuser une forme de compréhension de la cause palestinienne. Et ceux qui ne sont pas juifs, précisément, peuvent apporter une lumière à la fois de compassion absolue et d'indignation totale, mais de compréhension politique que tout le monde, juif, ne peut pas avoir parce qu'ils sont enfermés dans une douleur absolue. Mmh.
Sophie Gauguin.
Oui, je pense, mais c'est tout l'objet des discussions qu'on a par rapport à la manifestation de dimanche. Il était temps qu'il y ait un sursaut d'abord, parce que moi j'ai trouvé que les réactions globalement dans le public étaient assez lentes, chez les politiques aussi. Un des premiers à réagir, ça a été Xavier Bertrand, enfin je le dis vraiment. Et on l'a vu aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que en tant qu'élu local, moi j'ai fait une publication pour m'indigner en Normandie, où on sait ce que c'est que la lutte contre l'antisémitisme. Chaque année on emmène des lycéens à Auschwitz. Et j'ai trouvé que c'était très très lent. Donc tant mieux s'il y a une manifestation dimanche, s'il y a un sursaut absolument républicain, mais il était temps.
Mmh. Olivier D'Artigol.
Vous avez fait le verre à moitié plein, à moitié vide, je vais le faire à moitié plein, pour essayer de donner quelques notes d'optimisme. D'abord, l'intégralité, quasiment l'intégralité de la vie politique, du personnel politique a exprimé son soutien, à part les Insoumis. Il y aura dimanche l'ensemble des organisations politiques.
Pas toutes.
C'est de minibus. Une déclaration cet après-midi du Parti Socialiste, des Verts et du Parti Communiste qui déclarent qu'ils seront bel et bien présents dimanche à la manifestation, mais qu'ils ne souhaitent pas être à côté du Rassemblement National. Donc tout ça s'organisera. Je trouve que c'est quelque chose de très positif. Beaucoup théorisé sur le fait que la gauche ne serait pas présente. Et je trouve que la société française tient bon. Qu'elle tient bon par rapport à tout ça.
Merci. Allez, tout de suite, les trois mots dans l'actu.
Les vraies voix Sud Radio.
Et c'est avec Grégoire Daricot. Bonjour.
Bonsoir Grégoire. Trois mots dans l'actu qui sont Hidalgo, taux et superstition.
Bonsoir Philippe. Effectivement, un retour de vacances de Polynésie bien morose pour Anne Hidalgo, puisque les frais de notaire font plonger le budget de la mairie de Paris de 300 millions d'euros. Ensuite, dans un contexte de hausse générale des taux, une banque a décidé de les baisser. C'est une première depuis l'été 2022. Et enfin, si je vous dis visite d'un bien immobilier le 13 du mois, visite d'une maison au numéro 13, passage par le 13e étage, figurez-vous que 26% des Français se disent superstitieux quand il s'agit d'un bien immobilier.
Les vraies voix Sud Radio.
Alors le premier mot-clé, Hidalgo. La chute des prix de l'immobilier et celle du nombre de transactions réalisées depuis le début de l'année risquent de mettre en difficulté la mairie de Paris pour son budget 2024. En effet, l'opposition appelle la ville à réaliser un grand plan d'économie et à renoncer à des projets. Mmh. Et pour cause, la jolie manne financière sur laquelle la capitale s'appuie depuis des années fait grise mine. Les droits de mutation à titre onéreux, plus communément appelés frais de notaire, sont en chute libre. C'est un phénomène qui n'est absolument pas propre à Paris, effectivement. En clair, lorsque vous achetez un bien immobilier, vous payez ce qu'on appelle des droits de mutation ou des frais de notaire dans le langage commun. Sur les 7% de droits que vous payez, 4,5% vont dans la poche des collectivités. Autant vous dire qu'avec la baisse des transactions, les départements ont vu cette manne financière potentielle fondre. À Paris, à la fois ville et département, cela représente une baisse de 20% entre janvier et septembre, soit 200 millions d'euros, et les prévisions à la fin de l'année vont jusqu'à 300 millions d'euros.
On a envie d'aller directement voir Sophie Gauguin,
oui,
la maire.
La maire, oui.
Oui, oui. Dans le département du Calvados, effectivement, on a aussi eu des alertes. Alors, dans la transparence du président du département, qui a un grand contrat de confiance avec les maires, hein, qui nous a alerté bien en amont quand on a vu l'évolution du marché immobilier. Mais enfin, Anne Hidalgo, elle a le résultat quand même de sa politique catastrophique sur l'attractivité parisienne, sur le fait qu'il n'y ait pas assez d'investissements sur le logement, parce que c'est aussi une dynamique. Il y a la fiscalité, mais il y a aussi la dynamique du territoire. Donc on va avoir des difficultés majeures, d'autant qu'on en parlera tout à l'heure. Le marché va encore continuer de se tendre sur les possibilités de création de logements neufs.
Le deuxième mot, c'est le mot taux, cher Grégoire.
Et effectivement, Cécile, et je suis ravi d'arriver avec une bonne nouvelle. Puisque une bonne nouvelle pour les emprunteurs, c'est une légère accalmie qui se fait sentir concernant les taux immobiliers. Il y a une vraie volonté de laisser les taux stables. Les taux de crédit qui atteignent en moyenne en novembre 4% sur 15 ans, 4,20% sur 20 ans et 4,50% sur 25 ans.
Ce qui est énorme.
Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en cette fin d'année 2023, une banque régionale a baissé ses taux de 0,10 à 0,20% selon les profils. Et c'est une première depuis l'été 2022. La hausse des taux se stabilise donc enfin. C'est une bonne nouvelle pour les emprunteurs et on espère les prémices d'un mouvement plus vertueux.
Enfin, le dernier mot, superstition.
Eh oui, c'était Halloween il y a une semaine. Alors, oui. Entre chance et malchance, les avis divergent. La superstition gagne les Français, notamment quand il s'agit d'immobilier. Le vendredi 13, finalement, fait toujours autant d'effet. Selon un sondage récent de Se Loger, dévoilé le 31 octobre 2023 à l'occasion de la fête d'Halloween, 15% des Français éviteraient un logement portant le numéro 13 ou situé au 13e étage, surtout lorsqu'il s'agit de visiter un vendredi 13. Cette méfiance envers le chiffre 13, bien ancrée dans la culture populaire, révèle une tendance à éviter ce qui est traditionnellement considéré comme un signe de malheur. 15% des Français évitent le nombre 13 lors d'une visite, que ce soit pour le numéro de rue, pour le 13e étage ou pour la date, notamment un vendredi 13. 41% des Français ne sont pas capables d'emménager dans un logement où le précédent propriétaire est mort. Et 67% déclarent pouvoir renoncer à un bien s'ils ressentent des énergies négatives.
Merci beaucoup Grégoire Daréco d'avoir été avec nous. On vous retrouve bien entendu en fin de cette émission. Et dans un instant, on va revenir sur cette...
Exactement,
18h13. On va revenir sur cette information. Hier, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale ont appelé donc les Français à participer dimanche à une grande marche civique contre l'antisémitisme. Faut-il politiser la marche contre l'antisémitisme, pardon. Pour l'instant, vous dites non à 87%. Yanis Roder est avec nous, professeur d'histoire et géographie en Seine-Saint-Denis et directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Petite question, l'antisémitisme, comme disait Philippe Bilger il y a quelques instants, n'est-il pas le problème des Juifs? N'est-il que justement le problème des Juifs?
Bonsoir. Non, l'antisémitisme n'est surtout pas le problème des Juifs, c'est le problème des antisémites en premier lieu. Mais surtout, d'une manière générale, c'est le problème de tous. Pourquoi c'est le problème de tous? Parce que l'antisémitisme, en fait, derrière l'antisémitisme, il y a la haine de la République, c'est-à-dire la haine de la manière dont les Français ont choisi de s'organiser, c'est-à-dire, vous savez, il y a une grande place à Paris qui s'appelle la place de la Concorde, et on oublie ce que signifie Concorde. Or, la Concorde, c'est une valeur républicaine, c'est-à-dire la paix sociale. C'est-à-dire que l'antisémitisme véhicule la haine et le rejet de l'autre et l'idée de faire sortir les Juifs de la communauté nationale et donc du groupe que nous formons. La République, c'est le contraire. C'est prendre tout le monde de manière à ce que tout le monde se sente bien et en sécurité à l'intérieur de la communauté nationale. Ça veut dire que si on s'en prend aux Juifs, en fait, c'est au modèle républicain qu'on s'attaque et derrière les Juifs, ce sera d'autres groupes.
On en parle dans quelques instants. Petite pause et on revient. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue, nous sommes en direct du Salon du Rent. On parle de ProTech, de PropTech avec le Salon du Rent, l'innovation dans l'immobilier. On en parlera entre 19h et 21h avec des experts. En attendant, Philippe Bilger est avec nous aujourd'hui, Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie, et Olivier d'Artigol qui va poser son portable. Oh, ça va, on déconne. Oh, non, je dis ça parce que vous êtes en public et ça me fait rire. Et vous, au 0826 300 300, tout de suite, le grand débat du jour.
Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
Une marche à Paris dimanche contre l'antisémitisme.
Alors je pense que c'est une bonne initiative.
C'est un appel au rassemblement de tous les Français.
Il est stupéfiant d'entendre le silence, si vous me permettez cette expression, étourdissant face à plus de 1000 actes antisémites depuis le 7 octobre.
La Première ministre participera à la manifestation.
J'y participerai, Jordan Bardella y sera, l'ensemble de nos élus y seront.
Mais marcher aux côtés de l'extrême droite, pour moi, c'est quelque chose qui est rédhibitoire.
Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je vais quand même pas me plaindre de ça.
En revanche, non. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon, pour moi, est très problématique. On doit pouvoir parler de l'antisémitisme dans le pays sans faire aucun lien avec ce qui se passe au Proche-Orient.
Et hier, Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet ont donc appelé tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la République à participer à cette marche dimanche, grande marche civique contre l'antisémitisme, une proposition qui divise forcément la classe politique. La France insoumise a annoncé qu'elle n'y participerait pas, Philippe.
Oui, alors que les actes antisémites se sont malheureusement multipliés depuis les attaques du Hamas le 7 octobre dernier, saluez-vous cette initiative. À l'heure où Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat appellent à l'unité, la position de LFI vous pose-t-elle problème? Faut-il continuer à marginaliser le Rassemblement national? Est-ce une marche contre l'antisémitisme ou contre le terrorisme ou les deux? Est-ce que pour vous, ça devrait être une marche d'union nationale? Vous allez aller manifester, vous n'irez pas? Appelez-nous au 0826 300 300. Et pour le moment, à cette question, faut-il politiser la marche contre l'antisémitisme? Vous dites non à 89% sur Twitter.
Et notre expert aujourd'hui, Yanis Roder, est avec nous, professeur d'histoire-géographie de Seine-Saint-Denis et directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Merci en tout cas d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, forcément, pendant tout un temps, c'était plutôt assez politisé. Certains ont reculé, comme le PC, en disant finalement qu'ils participeraient à cette marche, alors qu'ils ne voulaient pas être liés au Rassemblement National.
C'est sûr. En même temps, comment dire, j'ai l'impression qu'on regrette la politisation d'antan. Et pour ma part, je trouve encore qu'elle est dans les réactions concernant cette manifestation de dimanche prochain qui est pour la République et contre l'antisémitisme. Au fond, cette manière de dire, par exemple, que le Rassemblement national, qui est sous l'influence de Marine Le Pen, totalement, quasiment en voie de dédiabolisation, n'aurait pas le droit d'y participer, c'est une manière de laisser croire qu'en réalité, le poison de l'antisémitisme ne pourrait être véritablement combattu que par ceux qui s'autoproclameraient humanistes. Olivier Véran vient dire que le Rassemblement national n'a pas à y être. À quel titre? De quel chef? Quelle est sa légitimité supérieure? Donc malheureusement, elle est déjà un peu politisée, alors qu'il aurait fallu que tout le monde, sans exception, sans polémique, puisse y aller s'il en a envie.
Sophie Gauguin.
Oui, il était nécessaire cet appel, hein, je pense, de Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, attendu par beaucoup de concitoyens, effectivement, qui savent encore faire la part des choses. Après, dans le sens qu'on donne à la politique, c'est-à-dire avoir des convictions et agir, je pense que chacun est libre aussi de s'exprimer sur ce qu'il ressent. Mmh. Et puis, le fait d'appeler à cette manifestation fait aussi tomber les masques. Bon, Jean-Luc Mélenchon s'est complètement fourvoyé dernière semaine de façon outrancière. Moi j'attendrai encore plus de réactions, mais il faut distinguer le fait de s'exprimer politiquement sur des comportements et des expressions politiques qui ne sont pas tolérables sur des sujets comme celui-là, et un mouvement sur des valeurs de la République qui doit fédérer tout le monde. Après, l'appréciation de courants politiques, chacun pense ce qu'il veut, mais on est dans un moment où il faut avoir un sursaut par rapport à ce qui est en train de se passer dans l'histoire du pays. C'est insupportable, ces actes antisémites. Depuis Mireille Knoll, on avait déjà alerté. Il est temps d'avoir un peu plus de concorde et d'autorité aussi, parce qu'on attend des sanctions par rapport à ces actes.
Olivier D'Artigol.
La question de dimanche.
Viens dans le micro.
La question de dimanche n'est pas celle du Rassemblement national. Quand bien même les dernières déclarations de Jordan Bardella sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen ont pu poser question, là n'est pas le sujet de dimanche. Dimanche, on souhaite tous une véritable déferlante populaire, citoyenne, pour que notre pays, et en effet chaque jour de trop, et de plus c'est un jour de trop, moi j'attendais une prise d'initiative. Elle aurait pu venir de l'exécutif, c'est pas venu de l'exécutif. Donc heureusement que la présidente de l'Assemblée, le président du Sénat ont pris cette initiative. Il se trouve que l'ensemble des forces politiques, sauf les insoumis, y participeront. Mais plus on va arriver vers l'échéance de dimanche, et j'ai envie de croire, d'espérer, que moins tout cela, les chicayas politiques s'arrêteront, et on aura une journée forte, la vie politique aura le temps de reprendre dès lundi matin.
Yanis Roder, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis et directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Que voulez-vous répondre aux vraies voix ?
Écoutez, moi je pense que ce que j'ai entendu me semble assez juste, c'est-à-dire qu'il y a une question de fond qui est la question de la concorde républicaine et de la sauvegarde de la République, en fait. Et que derrière la question de l'antisémitisme, il y a la République, ce qu'elle signifie dans ses valeurs et dans son fonctionnement profond. Les questions d'ordre politique ou politicienne me semblent ne pas avoir à prendre place dans ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que les partis politiques qui vont aller manifester ne doivent pas ou ne devraient pas apparaître en tant que tels, puisque c'est la nation qui doit manifester dimanche pour dire...
Mais en tant que citoyen.
L'opposition. Oui, exactement, en tant que citoyen, pour dire chacun d'entre nous, pour dire notre opposition à la haine, antisémite en l'occurrence, mais aussi pour la République. Et ça, c'est Philippe Bilger qui l'a dit, et je le remercie d'avoir dit cela, c'est pour la République qu'il faut aller manifester, et bien sûr, quand on manifeste pour la République, on manifeste contre l'antisémitisme.
Est-ce qu'on manifeste contre l'antisémitisme et aussi contre le terrorisme ? Est-ce que certains font l'amalgame des deux ?
Non, je crois que ce sont... deux sujets différents. L'antisémitisme, il touche profondément aux valeurs de la République et à ce que signifie la République française. Il a été question, j'ai entendu, de la Concorde. On a une grande place qui s'appelle comme ça. Je suis sûr que beaucoup de gens ne savent plus ce que c'est que la Concorde. Or, la Concorde, c'est une valeur cardinale de la République, c'est-à-dire la paix sociale. Voilà. L'antisémitisme, comme le racisme ou autre chose, ce sont des atteintes à la paix sociale, ce sont des atteintes à la Concorde. Donc, il faut très clairement dire contre quoi on manifeste. On manifeste pour la République contre l'antisémitisme. Le terrorisme, c'est quelque chose qui ne vient pas fracturer la République. Le terrorisme, c'est quelque chose qui vient frapper la République à un moment donné, dans un but, bien sûr, de provoquer des fractures, mais c'est autre chose, c'est d'une autre nature.
Yanis Roder, comment expliquez-vous ce que j'appellerais cette dérive française qui, à mon sens, commence heureusement à s'apaiser, qui fait que, à propos de causes qui devraient être universelles, la volonté des partis est moins d'en être que d'interdire à certains d'y participer. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est navrant, cette sorte de syndrome d'exclusion systématique qu'il y a parfois dans la République française, comme si l'universel ne devait pas dominer?
Je comprends ce que vous dites, Philippe Bilger, et vous faites référence, je crois, au rassemblement et à la présence annoncée du Rassemblement national dimanche. Je vous rejoindrai sur le fond, mais néanmoins, la question qui est posée dimanche... on va dire qu'elle est légitime, la présence du Rassemblement national, au regard de l'histoire même de ce parti, qui a été fondé d'anciens Waffen-SS ou des gens qui ont participé au régime de Vichy, sur des fonds antisémites. Donc vous comprenez bien qu'il y ait là une question de fond qui se pose. Alors vous l'avez dit, Marine Le Pen n'est sûrement pas son père, mais bon, j'ai quand même entendu Jordan Bardella dire que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, il a été condamné plusieurs fois en justice pour antisémitisme. Donc il y a là, si vous voulez, quelque chose qui pose question, c'est-à-dire que est-ce que le Rassemblement National ne profite pas de cette situation pour... on va dire, se blanchir sur la question de l'antisémitisme, se donner une nouvelle virginité, alors qu'il a lui-même été fondé à l'époque Front National, certes il y a 50 ans, et on a le droit d'évoluer, mais quand même sur des bases qui étaient au départ des bases antisémites.
Sophie Gauguin.
Oui, c'est... Enfin, comment vous dire ? Je suis assez stupéfaite de la façon dont aujourd'hui, médiatiquement, et là encore aujourd'hui, hein, les choses sont traitées. Il y a des valeurs intangibles. Après, les commentaires sur les partis politiques, le Rassemblement National, Jean-Marie Le Pen, il a eu des propos disqualifiants. Enfin, je veux dire, il a été antisémite, il a remis en question des pans entiers de l'histoire. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas de sursaut et qu'on n'est pas capable de considérer la gravité de ce qui se passe dans le pays, sans rentrer encore une fois dans ces batailles politiques, il sera temps après, peut-être dimanche, de revenir là-dessus. Mais moi, je dis, c'est grave parce que ça se passe dans tous les pays en ce moment. Si vous regardez l'actualité, il y a des personnes juives, parce qu'elles sont juives, qui se font attaquer partout. Ça se passe...
Pas qu'en France, hein, bien sûr, vous l'avez rappelé,
oui,
justement, même à Sydney, à Berlin, à Londres,
aux États-Unis,
à New York.
À Paris, et ça se passe dans nos campagnes. Je le vis chez moi, donc il est temps de réagir collectivement. Il y aura le temps du commentaire, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est l'unité qu'il nous faut.
Quand on lit les tweets de Jean-Luc Mélenchon qui dit « Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous », Olivier Dartigolle, est-ce qu'on a dépassé l'outrance ?
C'est une abomination, mais depuis le 7 octobre, avant, l'accélération chez Jean-Luc Mélenchon de ce que je pensais être au début une ambiguïté est aujourd'hui une véritable dérive, et le constat est dur pour les insoumis. Quand bien même ils auraient souhaité être présents dimanche, est-ce que les conditions auraient été réunies pour eux au regard de ce qu'ils ont dit et surtout aussi de ce qu'ils n'ont pas dit depuis le 7 octobre, notamment sur la qualification des crimes odieux du Hamas?
Sophie voulait réagir?
Oui, non, juste avant, Sophie Gauguin, avant Frédéric Darcachon qui veut réagir aussi. Sophie?
Ah pardon.
Oui.
Non, Jean-Luc Mélenchon devrait être sanctionné. Je ne sais pas, cher Philippe, comment. Mais
il n'est plus parlementaire, hein,
oui,
donc il n'y a plus que les tribunaux. Hein.
Oui, voilà. Mais je pense que ça fait aussi partie du laxisme global auquel on assiste. C'est pas possible d'avoir des responsabilités politiques et de tenir de propos aussi outrageants et insultants vis-à-vis de la population. Je comprends pas.
Là, les 0826-300-300, Frédéric Darcachon, une réaction avant de revenir à Yanis Röder.
Oui, bah, si vous voulez, il y a une chose qui m'a quand même plus qu'interpellé, c'est en quelques semaines, comment a-t-il été possible en France, médiatiquement et tout, une telle montée de l'antisémitisme. C'est pas très vieux, il y a encore quelques mois, le moindre propos, le moindre mouvement antisémite, il y avait la DICRA, le MRAP, tout le monde tombait dessus. Là, ces gens-là, on les a pratiquement pas entendus. Et on arrive à une montée de l'antisémitisme, alors qu'il était certainement larvé. Moi qui me stupéfait, et je vois quand même que le gouvernement français est d'une frilosité inimaginable pour réagir par rapport à ça, alors qu'il y a encore quelques mois, ça aurait été intolérable. Et je trouve ça très grave, hein. Je dis très grave quand on en arrive à pouvoir, parce que dans un pays comme la France, il puisse exister un tel mouvement antisémite, je trouve ça très grave.
Voilà. Yanis Röder, pour rebondir sur ce qu'a dit Frédéric Darcachon, on a un peu le sentiment, je vais le décrypter, je pense,
qu'il y a quelques...
Qu'il y a un mauvais antisémitisme qui était l'antisémitisme d'extrême droite et un d'antisémitisme acceptable, celui qui vient des banlieues. Est-ce que finalement ce deux poids deux mesures, c'est pas ce que décrit Frédéric?
Écoutez, alors avant de répondre à votre question, hein, mon propos tout à l'heure sur le Rassemblement National n'était pas d'interdire, de dire qu'il fallait interdire la présence du Rassemblement National. Je dis simplement, voilà, il faut garder cela en tête, hein, l'histoire du Rassemblement National. Sur la question que vous venez de me poser, ce qui est très intéressant quand on regarde l'histoire récente de l'antisémitisme, c'est-à-dire ces dernières 25 années, vous aviez traditionnellement, et on l'a vu au moment de Carpentras, en 1990, du cimetière de Carpentras, traditionnellement, c'est la gauche antiraciste qui descend et qui descendait dans les rues pour lutter contre l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme, effectivement, vous avez raison, venait d'un endroit bien identifié, l'extrême droite. partir du moment où l'antisémitisme au début des années 2000 a été véhiculé par des gens qui se réclamaient de l'islam tout en étant islamistes, en réalité, dans leur vision du monde, on a senti une vraie gêne dans des organisations plutôt marquées à gauche, dans certaines organisations plutôt marquées à gauche, qui, gênées par la vision de ces gens comme étant des victimes post-coloniales et puis également des victimes sociales, n'ont pas accepté même l'idée que des victimes, que des gens qu'ils voyaient comme victimes, puissent être des bourreaux, c'est-à-dire des gens méchants et des gens racistes, c'est-à-dire en l'occurrence antisémites. Et donc là, il y a une fracture qui s'est créée, ce qui fait que, par exemple, en 2012, en 2006 pour Ilan Halimi, 2012 pour moi, pour les assassinats perpétrés par Mohamed Merah, les juifs se sont retrouvés seuls dans la rue, puisque les organisations ou les gens de gauche qui avaient l'habitude de manifester contre le retour de la bête immonde, je mets entre guillemets, eh bien là, n'étaient plus là, parce qu'effectivement, ce n'était pas le même antisémitisme, c'est-à-dire ce n'était pas la même source de l'antisémitisme.
Oui, Olivier,
je compléterai, je suis totalement d'accord avec cette analyse. Je compléterai par un propos un peu provocateur, mais au cours des 20 dernières années, la gauche a oublié de travailler. De travailler un nouvel imaginaire. Et la manière de combattre idéologiquement et politiquement le nouveau Rassemblement National uniquement sur le thème du no pasaran alto-fascisme, alors qu'il y avait un corpus idéologique à renouveler pour s'attaquer plus fortement dans la bataille idéologique, n'a pas été fait, n'a pas été travaillé.
Vous êtes d'accord avec ça, Yannis Schroeder? Vous êtes à la Fondation Jean Jaurès, directeur de l'Observatoire de l'Éducation.
Et la Fondation Jean Jaurès produit des choses passionnantes.
Oui, et qui est une fondation de gauche. Vous êtes d'accord avec Olivier Dartigolle?
Oui, je suis d'accord, même si effectivement, je vous remercie de rappeler qu'à la Fondation Jean Jaurès, nous travaillons et nous essayons de réfléchir à ces questions. Parce
qu'on est quand même ça irrigue.
On a produit beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on a produit beaucoup de choses un peu dans un, non pas dans un désert, mais enfin, on a eu l'impression un peu de prêcher dans un désert. On essaye de produire, mais effectivement, ça ne percole pas, comme on dit. Et effectivement, je suis assez d'accord avec cette analyse que la gauche s'est réfugiée, et on le voit très très bien avec la France insoumise, dans des schémas préétabli très simpliste en réalité, dont certains nous viennent des États-Unis et qui se limitent à dominer, dominant, opprimer, oppresseur, gentil, méchant, hein, pour aller vite, et colonisateur, colonisé, etc. Donc des schémas préétablis et qui ne sortent pas, en fait, qui chassent toute complexité et toute capacité à avoir une réflexion construite.
Merci beaucoup pour cet éclairage, Yannis Schroeder, d'avoir été avec nous, professeur d'histoire-géographie de Seine-Saint-Denis. Vous êtes président pour moi maintenant, directeur de l'Observatoire d'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants, on va jouer au qui c'est qui l'a dit. J'espère que vous avez bien révisé vos tablettes, bien écouté nos politiques ces 24 dernières heures. On joue dans un instant. Il y a du très lourd. Allez, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Parce qu'il y a certainement des fausses voix quelque part, pour nous copier, mais ici, ce sont des vraies voix, avec Olivier Dartigolle qui est avec nous, Sophie Gauguin qui est avec nous, vice-présidente de la région Normandie, et puis le président tout court, le président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger, est avec nous, et un autre intervenant, puisque vous savez que chaque jour, dans les vraies voix, on a une vraie voix du jour, avec Fabrice qui nous...
Frédéric.
Oh, mais pourquoi je vais l'appeler Fabrice?
Parce qu'il est d'Arcachon et que vous devez avoir une petite dent contre les Arcachonnais. On adore les gens du bassin, on les embrasse.
D'ailleurs, je vais venir habiter chez vous tellement j'adore cette ville. Vous avez de la place pour nous ou pas, non?
Ah, sans problème. Non,
il ne répond pas.
Il a dit sans problème.
Ah, il a dit pas de problème. Ok, bah j'arrête, bougez pas. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu.
Et le quiz de l'actu, donc je vous rappelle le principe, mon cher Fabrice, vous répondez en premier, si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont les vraies voix qui s'y collent.
Allez, qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? En interne, on me dit lave ton linge sale en famille, mais où est-elle la buanderie?
Oh là là.
Qui a dit ça?
Garrido.
Moins deux points pour vous.
Désolé.
C'était Raquel Garrido.
C'était effectivement Raquel
moins
Garrido.
Moins un point.
On ne peut pas vous faire confiance.
Non, mais je pensais que c'était un autre tour.
Ah, bah oui, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Il y en a qui ne respectent jamais les règles.
Mais ça, c'est comme à l'école. Oui, mais les autres.
Je suis un zadiste sur le jeu, vous savez.
Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Fabrice. C'est fini. Oh,
mais. Allez-y, Sophie.
C'est pas grave. En plus, j'ai marqué Fabrice sur mon téléphone.
Il mériterait de s'appeler Fabrice.
Oui, appelez-moi Céline. Frédéric, écoutez bien. Qui c'est qui l'a dit? C'est fini. On a coupé avec lui. La NUPES est enterrée. Ce n'est plus un sujet.
Frédéric.
Sinon, on appelle Fabrice, on vous dit tout de suite.
L'ancien adjoint Mélenchon, là, merde.
Non, pas du tout.
Bonne réponse d'Olivier Vartigol.
Fabien Roussel avec
Il l'a dit avant.
J'ai voulu lui laisser.
Il l'a dit avant, Olivier. On lui met un point. On lui a pas compté le premier.
Sa seule chance. Allez, on y va. Qui c'est qui l'a dit?
Le laxisme migratoire se fait toujours au détriment des plus pauvres. Aujourd'hui, l'immigration clandestine est l'armée de réserve du patronat. Et c'était ce matin sur Sud Radio.
Ouais. Il est président aussi.
On l'a déjà entendu souvent.
Il est maire et président. Oui,
vous me laissez une chance.
Allez-y, Philippe.
Il l'a dit plus tôt.
Mais quelle est la règle?
Je pensais encore que notre auditeur avait la main.
Non, mais là, il fait diète depuis tout à l'heure.
La règle,
c'est ce qui me fait gagner.
Le micro. Je demande simplement. Cécile, à partir du moment où c'est à nous, vous dites top.
Vous demandez, écoutez, faites-moi une photocopie, vous l'envoyez en plusieurs exemplaires, on le fera valider par un notaire.
Respectez les règles comme
ça, c'est fou ça. C'est qui le patron aussi? Allez, on plaisante. Qui c'est qui l'a dit au sujet du procès de Dupond-Moretti? Il y a dans notre état de droit un principe auquel je tiens, c'est la présomption d'innocence.
Frédéric.
Qui a pu dire ça?
Très récemment.
Allez, on passe. Bonne réponse, il a été plus rapide là. Olivier Vartigol. Il l'a dit plus vite que vous.
Moi, je l'avais.
Oui, mais lui aussi.
J'ai plus vite que vous. Je parlais de monsieur récemment.
Mais c'est fou, on dirait qu'ils ont 4 ans.
Qui l'a dit? Alors, je vous dis tout de suite.
Mais levez la main alors.
C'est un député LFI, on l'a jamais cité, mais ça m'a fait rire. Monsieur Ruffin, on le voit beaucoup dans les médias, mais jamais à l'Assemblée nationale pour voter les motions de censure. Et c'était aussi ce matin sur Sud Radio.
Allez.
Aussi ce matin.
Monsieur Ruffin, on ne voit jamais.
Un peu après David Lisnard.
Allez.
Ah, oui. Giroud?
Non.
Giroud du Sud. Non, Giroud, il est entraîné au Serre.
Oui. Allez, la réponse, Philippe.
Le maire
élu de Marseille. Non, élu de Marseille, député des Bouches-du-Rhône, c'est Sébastien Delogu. Bonne réponse. Mais je l'avais dit en premier.
Vous l'avez dit en premier. Allez, dernière petite question sur la loi immigration. Écoutez bien, Frédéric, qui c'est qui l'a dit? Les Français soutiennent le texte de loi de Gérald Darmanin. Qui a dit ça?
C'est un ancien Premier ministre.
Ouais.
Ici
où?
Frédéric.
Allez, Frédéric.
Qu'est-ce qu'on aurait...
Il est parti en Espagne.
Valls.
Non, voilà, il est parti en Espagne, alors c'est bon. Son prénom, Emmanuel, allez-y.
Quelle image vous donnez de vous?
Vous êtes ridicule.
Bon, Olivier Vartigol a gagné.
D'un
petit score, mais...
Comment il a pu gagner?
Allez, vous restez avec nous. Frédéric, vous restez avec nous jusqu'à la fin. Vous êtes notre vraie voix du jour dans une petite des minutes. Le tour de table de l'actu des vraies voix avec vous, Philippe Bilger. On parle de quoi?
David Lisnard, une espérance pour les Républicains.
Sophie Gauguin.
L'autorité, le fait que l'impunité crée une colère froide chez les Françaises et les Français.
Et avec Olivier Vartigol.
Hier, les assistants parlementaires étaient en grève. Pourquoi?
On revient dans un instant. Merci de votre fidélité. Les vraies voix en direct du RENT, le salon de la PropTech. À tout de suite. Et on est très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Rennes dédié à l'innovation dans le secteur de l'immobilier qui a ouvert ses portes ce matin. C'est jusqu'à demain, Paris Expo, Porte de Versailles, pavillon 6. Et nous sommes ici, bien sûr, avec nos vraies voix du jour. Sophie Gauguin qui est avec nous, vice-présidente de la région Normandie. Olivier Vartigol, un expert en politique.
En immobilier.
Ni en qui c'est qui l'a dit.
Oui,
et avec nous, Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h.
Les Vraies Voix Sud Radio.
Et ce soir, c'est pas un coup de gueule, comme on est en public pour une émission décontractée, mais un moment de rire, puisque la présélection des petites phrases pour le prix de l'humour politique viennent de tomber. Le prix sera décerné le 5 décembre prochain. Alors, l'an dernier, Fabien Roussel avait gagné avec cette phrase, je cite, « La station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. J'ai sélectionné celles qui sont, à mon avis, les 10 meilleures, et avec vous, les vraies voix, et avec vous, Cécile. » Et vous allez me dire laquelle ou lesquelles sont vos favorites. On commence ?
Allez-y,
allez,
on y va.
La première a été prononcée par Xavier Bertrand. « Le gouvernement de Madame Borne est aussi expert en justice que moi, je suis expert en régime amincissant. »
Ah, c'est pas mal.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui.
Ah, on attend.
Ah, non,
non, non, non, mais non, je vous dis les 10. Mais celle-là, vous la trouvez bien déjà ?
Oui, oui, pas mal.
L'autodérision en politique, pas mal. C'est toujours bien.
Oui, c'est bien.
Xavier Bertrand. Ah,
elle aurait été moins crédible, dite par Gérard Larcher, par contre. Une autre d'Éric Piolle sur Laurent Wauquiez. Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, sur Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On connaissait le puits du fou. Maintenant, on a le fou du puits. Puisqu'il est originaire du Puy-en-Velay.
Merci.
Non, mais tout le monde ne le savait pas.
Non, mais pas mal, pas mal.
Alors,
pas mal,
celle-là
bonne vanne.
M'a beaucoup fait rire, c'est Nathalie Goulet, c'est chez vous, sénatrice centriste de l'Orne. Gérard Larcher, c'est notre renaissance, la revanche des tripes sur le quinoa.
C'est vrai. Ouais.
C'est allez, joli.
Moi, ça me fait rire.
Ah bah, une autre qui est très bonne, c'est aussi en Normandie. Hein, ils sont.
S'ils bossaient tous autant qu'ils font des blagues, c'est bien.
Édouard Philippe, ancien Premier ministre. Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Qu'est-ce que vous verriez de viser dans les contre-exemples, des idées ?
Parler de François Hollande, non ?
Ah bah lui, oui.
Et pourtant, il avait du succès auprès des femmes. Hein.
Ouais, bah, Édouard Philippe, qui s'est surpassé parce qu'il a une deuxième citation qui a été retenue. Christophe Béchu, quand il arrive dans une réunion, il vous beurre. Puis il vous mange et vous vous êtes rendu compte de rien. C'est pas mal non plus.
Ouais.
Alors, une très drôle bien. De Christine Pires-Beaune, députée PS, au sujet de Ségolène Royal.
Ah.
Je ne pense pas que l'on puisse fabriquer du neuf avec du vieux, même si l'économie circulaire est très en vogue. Pas mal.
Ouais. Mmh.
Alors celle-là est fabuleuse. Après Sainte-Soline, Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. S'il n'y avait pas eu de force de l'ordre, il n'y aurait pas eu d'affrontement ni de destruction.
Mais dis-moi pas que c'est pas vrai.
Si, si.
Oh, mais c'est incroyable.
Ah bah elle est nominée.
Oui, mais alors, elle est nominée pour une bêtise.
Alors, une autre féministe, Sandrine Rousseau, qui a dit « La visibilité du clitoris est un combat féministe ».
Bien.
Sans aucun doute.
Alors, on demande à voir.
Une autre très drôle, c'est de Marlène Schiappa avant son départ du gouvernement. Être mise en cause par Mediapart, c'est le meilleur moyen de rester au gouvernement.
Mais c'est pas idiot.
C'est pas mal.
C'est pas idiot. Hein. Olivier Dartigol, ça laquelle pas... vous préférez.
Il en reste une encore. Ah bah, et en plus, c'est Fabien Roussel qui est encore nominé. Suite à l'interview de Marlène Schiappa dans Playboy. Il ne suffit pas de s'abonner à PIF pour connaître les intentions du gouvernement, il faut aussi s'abonner à Playboy. J'ai trouvé qu'elle était très jolie. Votre ou vos préférés, les vraies voix. Tiens, Sophie Gauguin, on commence par les dames.
Oui, alors j'en écarte quand même pas mal parce que celles qui sont sur le physique, tout ça, j'aime pas trop. À part moi j'aime beaucoup l'autodérision de Xavier Bertrand. Et d'ailleurs, il a déjà eu le prix de l'humour politique.
Oui.
Oui, il serait bien qu'ils aillent le chercher s'ils ont de l'humour.
Non, mais il est sincère dans son. Voilà.
Ouais. Cécile, votre préféré à vous, on continue par les dames.
Oh bah, moi, celle de Tondelier, elle me fait beaucoup plaisir.
Je pense que.
Ça me fait mal, mais je dirais Piolle.
Éric Piolle.
Le puits du fou.
Même choix que le procureur.
Pas pour les mêmes raisons.
Non, certainement pas pour les mêmes raisons.
Et donc, verdict le 5 décembre.
Ah, alors on ne sait pas, on ne sait pas là.
Et
ah,
non, ouais. C'est le 5 décembre. Mais j'ai pris que.
Il y a celle... des shortlists après, non ?
Ouais.
Ah, bah là, c'est moi qui ai fait ma shortlist par rapport à toutes les citations. Il y en a 50, on n'avait pas le temps d'en faire 50. J'ai pris les 10 qui m'avaient personnellement fait le plus rire.
Et je trouve invraisemblable que certains mots d'esprit étincelants dits dans les vraies voix ne soient pas dans le classement.
Ouais, parce qu'on en dit des bêtises. Hein. Ça, je peux vous être sûr qu'on devrait être nommé et nominé tous les ans. Et élu et lauréat tous les ans. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Philippe, on parle de quoi dans quelques
David
instants ?
David Lisnard, un espoir.
Ah, Sophie Gauguin, de quoi on parle avec vous ?
On va parler de l'impunité, de la colère froide dans le pays et de l'indignation à géométrie variable sur plein de sujets de société.
Olivier Dartigol.
Le rôle important des assistants parlementaires, mais qui sont peu reconnus.
Ben on en parle dans quelques instants, on fait une petite pause. Merci en tout cas d'être avec nous en direct du RENT, ce salon de l'immobilier pour les professionnels. Et on parle d'innovation jusqu'à 21h ce soir.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et avec Philippe David et les Vraies Voix, nous sommes finalement à Paris Expo, Porte de Versailles, pavillon 6, en direct du salon Rennes dédié à l'innovation et dans le secteur de l'immobilier. Et on continue bien entendu à évoquer l'actualité avec Sophie Gauguin qui est avec nous, vice-présidente de la région Normandie. Ça va Sophie ?
Impeccable.
Oh, impeccable. Philippe Bilger est avec nous, le président de l'Institut de la Parole, qui était au taquet, là, qui est en train de tweeter comme un fou, là, Olivier.
Philippe Bilger.
J'avoue, je tweete.
Mais mettez le casque pour entendre.
Je disais que Philippe David avait dit une chose intelligente, une fois.
Bah, vous l'avez bien fait de l'écrire, parce que ça va, c'est pas Noël tous les jours. Olivier D'Artigol est avec nous. Ça va, Olivier D'Artigol ?
Il est là.
Il est au taquet.
Et lui, il ne dit que des choses intelligentes.
Non, ça dépend.
Il fait la moue.
Justement, écoutez donc ce jingle du tour de table de l'actu.
Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine.
Je vais vous raconter une histoire pas banale.
Et vous, vous me racontez pas votre petite journée ?
On a assez perdu le temps comme ça.
Le tour de table
de l'actualité.
Et votre tour de table, Philippe Bilger, est sur la venue de David Lisnard, le président de l'AMF et maire, l'Association des maires de France et maire de Cannes, ce matin, sur Sud Radio, chez Jean-Jacques Bourdin.
En effet,
merci, Philippe, merci beaucoup pour les applaudissements.
Je l'ai toujours beaucoup apprécié, David Lisnard. Il est un grand maire de Cannes, mais à une certaine époque, je trouvais qu'il était plus un intellectuel qu'un véritable homme politique. Et je le trouvais parfois un peu long dans ses commentaires et ses réponses. Et ce matin, je l'ai trouvé très remarquable, questionné par Jean-Jacques Bourdin, et il faudra compter avec lui pour l'élection présidentielle de 2027, parce qu'il a cessé de faire semblant de ne plus s'y intéresser.
À votre avis, il n'y pense pas qu'en se rasant, Sophie Gauguin ? David Lisnard ?
Certainement, oui, je pense. Mais comme beaucoup d'hommes et de femmes politiques, quand on est passionné, quand on est maire, qu'on s'intéresse et qu'on aime son pays, on s'interroge sur comment on peut aider son pays dans différents parcours. Mais il n'est pas seul. Et voilà. Mais je crois qu'il faut que le calendrier de la présidentielle ne dicte pas tout en ce moment.
C'est trop tôt, selon vous ?
Oui. Je pense qu'il faut penser là à ce qu'on vit et aux solutions qu'on doit apporter.
Mais Sophie Gauguin, 2027, c'est plausible ?
Bah écoutez, j'y pense.
Vous êtes bien sur la messagerie.
C'est vrai que ça manque de...
Je ne suis pas là pour l'instant.
Voilà, effectivement, ça manque de femmes quand même.
Il ne nous manque que d'être maire pour être candidat.
Absolument.
Olivier D'Artigol.
Mais je suis d'accord avec Philippe Bilger. Il y a chez David Lisnard quelque chose qui est en train de se cristalliser. Son nom apparaît pour l'instant dans la catégorie des outsiders sur une primaire qui pourrait être une primaire LR. Avec des interventions régulières dans le débat politique qui font réagir. Donc il y a quelque chose qui se passe de positif. Et après, c'est vrai que le mandat de président de l'Association des maires de France est quelque chose qui aussi lui a permis une plus grande visibilité.
Et puis du terrain aussi, peut-être.
Oui, bien sûr.
Oui, c'est ça. Avec vous, Olivier D'Artigol, c'est du jamais vu. Hier, une centaine d'assistants parlementaires se mettent en grève pour la première fois. Un signal fort, selon vous.
C'était hier à l'Assemblée. À peu près 140 assistants parlementaires à l'appel de la CGT ont interrompu leur travail, ont défilé sous les dorures du Palais Bourbon. Il n'y a pas de statut de l'attaché parlementaire. Le député
ce qui est dingue, d'ailleurs.
Oui, le député a 11 000 euros pour recruter autour de lui. Mais nous savons que les choses se passent pas toujours très bien. D'abord, en termes de rémunération, il n'y a pas de grille salariale pour les attachés parlementaires. C'est à la tête du client. Certains peuvent être bien rémunérés et d'autres, vraiment, on lance-pierre. Il n'y a pas... alors que le législateur fait le code du travail, c'est véritablement au bon vouloir du député. Il ne peut pas y avoir, par exemple, l'Assemblée nationale qui interfère, qui fait de la médiation, si les choses se passent mal, il renvoie systématiquement aux députés. Donc les assistants ont demandé un véritable statut de collaborateur parlementaire, une grille salariale et la possibilité d'avoir des médiations quand les choses se passent mal. Il y a un énorme turnover dans toutes les mandatures. Des députés peuvent parfois essorer une douzaine de collaborateurs sur le temps du mandat.
Sophie Gauguin, ça pose pas la question d'un serpent de mer dont on parle depuis des années, le statut de l'élu, et le statut des collaborateurs d'élus, 2.
Oui. Alors moi, je l'ai été assistante parlementaire. Après, c'est toujours pareil. C'est l'exemple qui doit être donné par celui qui vous emploie. C'est quand même le député qui aussi vous emploie et qui, du coup, se comporte pas bien ou bien en tant qu'employeur, quel qu'il soit. Donc il y a la question du statut. Moi, je pense plutôt aux passerelles qu'on doit avoir en tant qu'élu ou collaborateur parlementaire, parce que on est des saltimbanques. Enfin, je veux dire, on saute du jour au lendemain. C'est plutôt les passerelles vers l'emploi ou le retour à l'emploi qui me paraît très important, parce qu'on peut vite décrocher et se retrouver en difficulté. Mais c'est surtout l'exemplarité, je dirais, du député ou du sénateur qui me paraît.
Un vrai statut serait salutaire quand même.
Oui, un vrai statut serait salutaire.
Mais... Et il faut savoir que l'activité du parlementaire, ça n'est pas uniquement les questions au Parlement ou la présence en permanence en circonscription. L'attaché parlementaire travaille beaucoup à la fois sur la production de la loi et sur le contrôle de l'exécutif.
Je suis frappé de voir à quel point dans l'entourage que j'ai eu, ou bien j'ai connu des assistants qui n'allaient pas du tout, qui connaissaient une forme d'enfer et d'autres, qui n'était pas loin d'une grande carrière politique. Le juste milieu, j'en ai rarement connu. Ça doit être lié à mon caractère.
Ouais. Est-ce que c'est là qu'on apprend tout, finalement ?
Oh, il y a plusieurs. En tout cas, il y a d'anciens attachés parlementaires qui sont aujourd'hui des responsables politiques. Mais c'est vrai ce qui a été dit. Les passerelles après cette activité ne sont pas toujours simples. En tout cas, c'est une expérience très forte, mais qui peut être aussi traumatisante. Je suis d'accord avec beaucoup... ce qui tient, c'est vraiment l'éthique du député, en l'occurrence, concernant son équipe de collaborateurs les plus proches.
Sophie Gauguin, vous avez été assistante parlementaire, vous nous l'avez dit. Alors, il y a votre cas, mais vous en avez connu d'autres quand vous étiez assistante parlementaire. Comment est-ce qu'on devient assistant parlementaire en général ? Il y a eu l'affaire des femmes, des maris qui étaient nommés, etc. Et possible, que maintenant, on ne peut plus, maintenant c'est plus possible, suite au Penelope Gate. Comment est-ce qu'on devenait, et aujourd'hui, comme vous connaissez bien la politique, assistant parlementaire ?
Oui, en ce qui me concerne, c'est l'engagement. Moi, le droit aide, forcément, parce que vous êtes dans la Constitution, dans la rédaction de la loi. Et moi, je trouve que c'est un atout de s'y connaître, quand même. Mais c'est aussi l'engagement. Moi, j'ai écrit à tous les députés et sénateurs de mon territoire à l'époque, dans le Pays d'Auge, en Normandie. Je leur ai dit que j'avais envie de m'engager pour mon territoire et mon pays et que j'étais à disposition. Et j'ai rencontré un député, Nicole Amine, et puis après, j'ai travaillé au cabinet de Xavier Bertrand. Donc voilà. Et je me sers tous les jours de ce que j'ai appris. Tous les jours, parce que c'est une école du droit.
C'est très formateur.
C'est très formateur.
Eh bien, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec la suite du tour de table de l'actu. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Vous voulez participer au débat. On sera ravis de vous accueillir. On est ici au Salon Rent avec nos vraies voix jusqu'à 19h. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David, mais nous ne sommes pas tout à fait seuls, puisque nous avons nos vraies voix. Philippe Bilger est avec nous, bien entendu, Olivier d'Artigol, notre expert. Vous êtes expert en quoi, finalement, d'Artigol ?
Assez généraliste.
Je suis assez généraliste.
En fraude dans les jeux.
En fraude dans les jeux, oui, c'est vrai.
Dit par vous, ça ne manque pas de sel.
Mais qu'est-ce que vous êtes mauvais joueur, les deux, là.
Du vice à la vertu.
Jamais je ne jouerai au Monopoly avec vous. jamais au Monopoly, parce que je vous rappelle que je triche, je tiens à signaler, c'est important, parce que c'est moi qui fais la banque.
Merci, vous avez rappelé que j'étais la caution morale de cette émission.
Tu parles. Et Sophie Gauguin est avec nous, bien entendu vice-présidente de la région Normandie. On était sur ce tour de table de l'actu des vraies voix. Sophie, vous avez envie de porter justement les sanctions à géométrie variable dans la classe politique.
Oui, parce que on parle d'éducation aujourd'hui, de bienveillance, on se re-questionne tous sur la façon dont on peut donner des espoirs et des valeurs solides à toute une génération. Et au quotidien, on observe des propos diffamants, insultants, discriminatoires. Jean-Luc Mélenchon en est un exemple frappant. Anne Hidalgo qui utilise l'argent public pour s'offrir un voyage personnel, alors que les gens aujourd'hui ont des difficultés de pouvoir d'achat, c'est insultant. Et on a le sentiment que tout ça reste complètement impuni, qu'on n'a pas de moyens pour que quand même, quand on a et qu'on exerce une responsabilité publique, me semble-t-il, on a un devoir d'exemple. Alors tant pis, peut-être que ce que je dis est moralisateur, mais je l'assume, parce que le sentiment de génération de colère aujourd'hui, elle est là. C'est-à-dire que des gens sont honnêtes, parce qu'ils roulent un peu trop vite, eh bien payent leur amende, parce qu'ils ont oublié de faire une déclaration de bonne foi, ont quand même un contrôle URSSAF. Et médiatiquement, on leur envoie, par le comportement même de ces élus qui ont des responsabilités, des attitudes déviantes sans aucune impunité. De la même façon, sur l'antisémitisme, ce à quoi on a assisté n'a pas été pris à bras-le-corps immédiatement ni sanctionné par la justice. De la même façon, je le redis encore une fois, sur les violences faites aux femmes, le fait qu'on soit encore libéré quand on a atteint à la vie d'une personne, sur les enfants, sur la pédocriminalité. Moi, je suis désolée, j'assume complètement mon propos, mais je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'impunité où l'honnête citoyen ou la citoyenne ne se sent pas défendue ou écoutée, et ça génère une colère sourde qui je ne souhaite pas, mais pourrait s'exprimer sur l'envie de se faire justice soi-même. Et je voudrais qu'il y ait une réaction par rapport à ça dans le pays, parce que c'est très dangereux.
Philippe Bilger dodine de la tête déjà.
Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Je trouve que les comportements politiques ont dû s'améliorer et se rectifier au cours des dernières années. Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est très difficile de passer, de pas se faire attraper par la patrouille, de passer sous les radars. Regardez ce qui se passe pour Anne Hidalgo. Il y a quelques années encore, je peux vous assurer que ça y allait gaiement. D'une certaine manière, les portables maintenant font que si quelqu'un a une attitude, c'est arrivé pour un politique sur une soirée théâtrale où il a eu un comportement inacceptable, oui. Je vous donne pas le nom, il s'est fait pour le coup rattraper. Donc tout ça va plutôt dans la bonne direction. Après, sur le débat politique, il y a en effet un débat politique abîmé, mais qui est aussi à l'image de ce que peut produire parfois le débat médiatique, la parole publique dans son ensemble, oui. Et chacun doit regardez ce qui se joue.
Philippe Bilger, bien dans le micro.
Je rejoins ce qu'a dit Olivier. Sophie, votre constat, je le trouve très pertinent, mais il me semble que depuis le début de cette émission, que vous illustrez par ailleurs, vous êtes très pessimiste sur les conséquences. Je n'ai pas l'impression que nous demeurons passifs face à tout ce que vous dites. Je rejoins pour Anne Hidalgo. Il faut imaginer qu'on ne parle que de ça depuis 8 jours.
Oui, mais qu'est-ce que ça... Excusez-moi, mais on n'a pas la même vie. Je suis mère. Je vais
M-A-I-R-E.
Je suis aux côtés des pompiers au quotidien, aux côtés des gendarmes au quotidien. Je suis aux côtés des médecins de communes rurales au quotidien, des enseignants. Je suis désolée. Eux, ils le vivent comme ça. Interrogez-les. Demandez aux auditeurs ce qu'ils en pensent. Demandez-leur ce qu'ils en pensent. Le fait que on porte. Regardez Cardolive. Oui. Vous l'avez dit vous-même.
J'ai poussé
des
un
élus
coup de gueule
qui
hier.
Se font insulter, menacer de mort. La personne concernée qui commet ces menaces est relâchée. Et c'est comme ça.
Et affaire classée sans suite.
Affaire classée sans suite.
Je rebondis, Sophie Gauguin, sur ce que vous disiez il y a quelques instants, Philippe Bilger. Effectivement, on parle beaucoup d'Anne Hidalgo, mais qu'est-ce qu'il va en rester de ça? À part qu'on en a parlé, est-ce qu'elle sera sanctionnée? Pas. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, pour ses propos, ses outrances, sera à un moment donné sanctionné? Toujours pas.
Mais Cécile, imaginons qu'Anne Hidalgo n'ait rigoureusement rien à se reprocher. Imaginons-le.
Oui.
De toute façon, elle a subi depuis 8 jours une sanction médiatique grave. Il y aura peut-être une procédure si ce qu'elle a fait relève d'un détournement. Mais on ne peut pas dire, Sophie, qu'il n'y a pas de progrès démocratique par rapport aux transgressions qui, comme
c'est
l'a dit Olivier...
Non, mais
moi je suis d'accord avec ce que dit Sophie.
C'est pas ce que je dis du tout. Il y a quand même un affaiblissement de l'autorité et des sanctions juridiques globalement pour les victimes du quotidien, les enfants, on n'écoute pas la parole des enfants.
Vous allez relancer Philippe David, là.
Non, mais je voudrais dire une chose. Quand vous voyez, par exemple, le type qui immobilise un de ses cambrioleurs, qui a été plus condamné que son cambrioleur, lui, parce qu'il a été arrêté pour séquestration, parce qu'il l'a arrêté pendant que sa femme appelait la police ou la gendarmerie qui viennent l'arrêter, on est chez les dingues.
C'est ça.
Mais ce sont des aberrations judiciaires qui existent. Mais on ne saurait en tirer un tableau sociologique perturbant sur le plan global.
Interroger le sentiment des Françaises et des Français sur cette question de justice et d'équité de traitement, je pense qu'on a quand même un vrai problème et qu'il est temps aussi d'avoir quand même... des symboles forts sur ce sujet et des décisions de justice en adéquation
avec le problème, Sophie, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je dis toujours la même chose, mais tout se sait. Donc forcément, il y a une démultiplication de faits dans tous les sens qui fait que on a l'impression que, en fait, tout va mal. Mais est-ce que c'était pas un peu déjà le cas avant, sauf que, ben, forcément, c'était peut-être moins sur le devant de la scène. C'était ça aussi, peut-être.
Non,
peut-être qu'on ne disait pas tout.
Non, mais écoutez, on est maire, on fait des signalements au procureur de la République. On nous répond même pas. Si vous voulez des exemples concrets.
Cela existe.
C'est pas, bah oui, mais moi,
mais
je suis désolée, c'est pas parce que ça existe
émeutes.
Qu'il faut pas trouver des solutions.
Regardez
plus
sur les dernières émeutes. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu une réponse judiciaire. Il y a eu une réponse judiciaire, assez forte, assez ferme d'ailleurs. Il y a des peines qui sont prononcées.
Et on aurait souhaité que cette justice spectaculaire des émeutes soit celle de tous les jours.
Vous venez d'illustrer ce que je dis, mais merci pour cette belle démonstration.
C'était pas mon objectif, mais si je l'ai fait, je vous donne.
Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est parce qu'il y a eu des émeutes que tout d'un coup, il y a des réponses. Oui. Et ce que je dis, c'est qu'au quotidien, les victimes du quotidien sur tout un tas de sujets ne sont pas considérées ni entendues et que ça génère une colère froide.
Oui, mais ça c'est vrai.
Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup à Sophie Gauguin pour ce sujet. Plus de 5 millions de logements pourraient être interdits à la location d'ici 2028. On va en parler dans quelques instants avec cette question. Est-ce que va-t-on encore pouvoir se loger en France ? Bérénice Deville-Fleuriot est avec nous, journaliste Radio Immo. Merci d'être avec nous. Petite question avant de partir en pub. Est-ce qu'il va y avoir de la casse chez les propriétaires ?
Ah bah, ça a déjà commencé, j'ai envie de vous dire.
On en parle dans quelques instants. La suite, vous voulez réagir, 0826 300 300, vous êtes propriétaire ou locataire, vous voulez nous en parler, vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David en direct du Salon du Rent.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et on est ravis de vous retrouver en direct du salon Rent, qui est dédié à l'innovation dans le secteur de l'immobilier. Nous sommes à Paris Expo, Porte de Versailles, pavillon 6. C'est ouvert depuis ce matin jusqu'à demain. Et on y est, bien sûr, avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger est avec nous. Sophie Gauguin est avec nous, vice-présidente de la région Normandie. Et puis, Olivier Dartigolle est avec nous, chroniqueur politique. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Et donc la France compte aujourd'hui un peu plus de 5 millions de passoires énergétiques sur 30 millions de logements. Pour obéir forcément aux nouvelles normes fixées par la loi climat et résilience, il faudrait encore isoler 600 000 logements chaque année d'ici 2028, sans quoi les logements étiquetés F et G seront interdits à la location, Philippe.
Oui, et est-ce que vous trouvez que ces nouvelles réglementations sont trop strictes ? Devez-vous, vous aussi, rénover votre logement ? Et la question qui fâche, en avez-vous les moyens ? Est-ce que vous craignez que certains propriétaires soient ruinés avec un logement dont ils ne peuvent rien faire et que ça aggrave encore, la crise du logement ? Vous êtes propriétaire, vous êtes locataire, venez témoigner au 0826 300 300. Et pour le moment, sur Twitter, vous dites à 96% qu'on ne pourra plus se loger en France avec les nouvelles réglementations sur l'immobilier.
Et notre invité pour en parler, une spécialiste, Bérénice Deville-Fleuriot, qui est journaliste Radio Immo. Merci d'être avec nous. Bonjour. Pour qu'on comprenne bien ce sujet, que les vraies voix puissent réagir, forcément sur des chiffres peut-être, pour recontextualiser un peu le sujet.
Alors, pour recontextualiser, vous l'avez évoqué, il y a la loi climat et résilience qui met en place un DPE. Un DPE, donc c'est le diagnostic de performance énergétique, qui est obligatoire pour chaque logement et qui donne une lettre à ce logement. Donc A sont les bons élèves et ça va jusqu'à G qui sont les pires, les passoires thermiques, vous l'avez évoqué. Donc
comme Philippe David, qui est une passoire thermique.
Voilà, un mauvais élève.
Non, une passoire thermite.
Thermite,
c'est pas pareil. C'est pire.
Absolument.
C'est pire.
Et avec ce DPE, la loi fixe un calendrier qui interdit donc les plus mauvais logements. Donc ça a commencé avec les pires G en 2023, ça continue en 2025, donc dans un peu plus d'un an où on aura interdiction à la location des logements G, et c'est 2 millions de logements en résidence principale, hein, parce qu'il y a des résidences secondaires, mais je ne les compte pas.
Non.
En 2028, donc ce sera 3 millions 150 000 logements qui seront à nouveau interdits, puisque ce sera tous les F, vous l'avez dit. Et ça continue en 2034, là il y aura 6 600 000 logements interdits à la location, ce sera les E. Donc en tout, on sort 12 millions de logements du parc locatif d'ici 2034.
Voilà.
Sachant que il y a déjà un problème de logement en France. Hein, les professionnels de l'immobilier alertent sans cesse en ce moment le gouvernement sur la question. Il y a une crise du logement qui est réelle et on parle même de bombe sociale.
Ouais. Sophie Gauguin, alors vous, forcément, en tant que vice-présidente de la région et maire, c'est vrai que la crise de logement aujourd'hui, tout le monde en parle. Et c'est vrai que les maires aujourd'hui se posent des questions sur la précarité de ces appartements, en tout cas de ces logements aussi.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs effets cumulés dans cette loi climat et résilience. Il y a d'abord effectivement le diagnostic et le fait que tous les propriétaires ne peuvent pas financer les travaux, même s'il y a des aides d'État. Le parcours, c'est quand même le parcours du combattant pour pouvoir d'abord, un, avoir le diagnostic. Les délais sont hyper longs, donc et puis il faut avoir l'argent et souvent faire l'avance de trésorerie pour être remboursé après. Oui. Ça, c'est un sujet hyper important. Donc même avec de la bonne volonté, on n'est pas sûr de pouvoir y arriver. Deuxièmement, il y a le fameux ZAN qui vient impacter
zéro artificialisation nette.
Voilà, des sols, avec une réduction de consommation de 50% des espaces d'ici 2031, et qui est une vraie préoccupation des maires. Aujourd'hui, nous, on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas répondre à l'exigence de logement. C'est 250 000 logements neufs par an qu'il faudrait construire, je crois, pour pouvoir atteindre des objectifs, mais tenir compte de l'exigence de la loi. Donc, en fait, on est dans une corner aujourd'hui difficile. Entre les particuliers qui ne peuvent pas, les délais trop contraints et le zéro artificialisation net. Donc, il va y avoir une crise dramatique du logement dans le pays.
Bérénice, c'est même un peu plus que 250 000. Alors tout le monde y va avec sa vision des choses, mais c'est aux alentours de 400 000 logements supplémentaires chaque année qu'il faudrait. Pourquoi ? Parce que la population grossit, et puis il y a de plus en plus de familles monoparentales, il y a beaucoup de divorces, donc on a besoin de plus en plus de logements.
Ce qu'on ne s'explique pas dans la politique publique, c'est que les chiffres qui ont été donnés, c'est 12 millions de logements d'ici 2034. On voit très bien que la marche est inaccessible. Aujourd'hui, les spécialistes de l'immobilier, les élus locaux, voient bien que comment est-ce qu'on peut monter ces paliers tels qu'ils sont prévus. Un. Deux, sur l'artificialisation des sols.
Pas facile
aujourd'hui,
à dire.
Oui. C'est pas facile à faire, mais c'est pas facile.
Sur l'artificialisation
des sols.
Mais
il dit ça de
manière
très naturelle.
Il y a, sur le plan local, aujourd'hui, des arbitrages à rendre qui sont extrêmement douloureux pour des élus locaux, parce qu'on a besoin d'investissements publics, on a besoin de crèches, on a besoin d'écoles, on a besoin d'un gymnase. Donc comment aussi situer l'immobilier dedans. Et puis l'accès, moi j'ai beaucoup dans la jeune génération, des 25, 30, 35 ans, des jeunes couples qui n'accèdent pas au crédit aujourd'hui et qui sont obligés ou alors de baisser la voilure ou alors d'interrompre leur projet d'achat. Donc tout additionné crée véritablement un horizon hyper anxiogène.
Bérénice de Villefleurio.
Oui, pour rebondir, et c'est ça, c'est exactement ça le problème, c'est que tout est grippé. Et c'est là où c'est inquiétant de sortir 12 millions de logements, c'est que vous l'avez dit, les taux augmentent. Donc de moins en moins de Français assez jeunes peuvent devenir propriétaires. Donc c'est eux qui tirent le marché vers le haut, c'est les jeunes Français locataires qui deviennent propriétaires. Pourquoi ? Parce qu'ils libèrent un logement en location, et donc il y a un marché qui tourne. Sauf que là, ces jeunes à qui on ferme les portes du crédit, restent dans leur logement en location. Ouais. Il n'y a plus de logement en location. On discute sans arrêt avec des agents immobiliers. Pour une annonce, il y a 300 candidatures, peu importe la ville, en une demi-journée. C'est dramatique. Il y a vraiment le marché de la location qui est grippé. Et là, on nous annonce que d'ici 2034, il y a 12 millions de logements en moins et 2 millions en moins dès 2025. C'est
une réaction affolante.
Quand j'ai entendu Bérénice parler de la loi climat-résilience, j'ai eu un espoir. Je croyais qu'on allait parler de résilience. Mais manque de bol, on parle de logement. Et donc, sur ce plan-là, une double question. Et je suis très profane dans ce domaine. Est-ce qu'il était fondamental de se battre contre les passoires thermiques ? Et d'autre part, si vous estimez qu'il fallait le faire, est-ce que c'est réellement très, très cher ?
il faut le faire, oui. Alors c'est le gouvernement non, hein, qui a décidé de le faire. Quand on discute avec les députés, parce qu'on les reçoit régulièrement, ils nous disent voilà, faut le faire, c'est pour la planète, c'est pour nos enfants, on doit tous s'y mettre avec l'été qu'on a passé. C'est sûr qu'il faut le faire. Après,
en matière de gaspillage d'énergie aussi, c'est
oui,
important.
Voilà, oui. Et puis il y a la crise énergétique. Ouais. Maintenant, l'énergie coûte beaucoup plus cher. Donc forcément, quand on habite dans un logement qui est mal isolé, n'importe quel locataire a envie aussi de réduire ses factures. Après, le problème, c'est que ça tombe au plus mauvais moment, en fait. Parce que, vous l'avez dit, les propriétaires, oui, ça coûte cher de faire des travaux, ça coûte de plus en plus cher avec l'inflation, les coûts des matières premières qui augmentent, ça coûte cher. Et la plupart des propriétaires bailleurs, là, je reprends les chiffres de l'ANA, de l'Agence nationale de l'habitat, c'est des propriétaires qui n'ont qu'un seul logement en location et qui n'ont pas des gros revenus. Ouais. Donc, ils ne pourront pas faire ces rénovations.
Allez, 0826-300-300, Frédéric d'Arcachon qui veut réagir. Rebonsoir, oui. Frédéric.
Rebonsoir. Merci. Alors, moi, je pense encore que cette loi, bon, comme on fait en France, bien gentiment et toujours, elle sera en grande partie inapplicable. Je ne vois pas comment on va pouvoir, en manque de logement, interdire de louer des logements en catégorie F ou G. C'est bien joli, mais on va faire une jolie loi, et puis on va faire des exceptions suivant tel département, on va repousser le machin. Enfin, on va tomber dans une salade parce qu'on ne peut pas, pratiquement. Ces logements qui sont... Les propriétaires ne pourront pas tout payer. Ou alors, si les propriétaires empruntent pour rénover le truc, ils répercuteront sur le loyer. Donc on va tourner, mais c'est pas possible. Alors on va faire une belle loi, oui, avec des statistiques, autant d'années, au bout de tant de mois, il y aura... Mais elle sera inapplicable. On pourra pas chasser des gens, ou même empêcher de louer des gens qui sont dans la rue et qui veulent un appartement. Pour moi, tout ça, c'est encore... Bon, ouais. Ça fait plaisir.
Justement, Frédéric, vous parliez de propriétaires. Sophie, qui nous appelle de l'Hérault, est avec nous en ligne. 0826-300-300. Bonsoir, Sophie.
Bonsoir, Sophie.
Oui, oui, bonjour. Merci de me laisser la parole. Écoutez, oui, voilà, je suis l'exemple type d'une propriétaire qui vient donc d'avoir un arrêté préfectoral pour insalubrité. Donc, les locataires se sont plaints auprès déjà d'abord. Enfin, il y a deux services, donc urbanistes auprès du conseil départemental.
Oui.
C'est un service qui vient établir un rapport. Bon, qui reste en contact avec eux de suite le propriétaire. Jusque là, on peut établir une démarche déjà humaine de converser enfin avec quelqu'un. Suite à ça, la démarche est allée à l'ARS. Alors là, changement de programme.
L'Agence régionale de santé.
Tout à fait. L'ARS déclenche un contrôle inopiné, donc sans le propriétaire, évidemment. Et là, c'est une petite maison qui se situe donc dans le nord de l'Hérault, à la limite du Tarn. Sachant que l'ARS est à Montpellier, donc probablement que cette personne est partie de Montpellier un 10 avril en petite claquette et elle est arrivée dans ce lieu, donc au nord de l'Hérault. À 900 mètres d'altitude et avec la neige qui était encore sur les bas-côtés. Donc elle est rentrée dans cette petite maison qui est dans son jus, qui a 200 ans, la petite maison donc qui appartient à ma mère, qui est usufruitière, et qui donc cette dame a fait son contrôle. Elle a relevé donc bon le toit est neuf de cette maison, les ont été changés PVC, il y a un insert aux normes ramonées régulièrement, mais elle a trouvé donc que la façade nord de la salle de bain n'était pas isolée, que la prise du cumulus n'était pas branchée directement au compteur.
Voilà. D'accord. Donc, en fait, donc ça veut dire tout un tas de détails qui fait qu'aujourd'hui, voilà. Vous ne pouvez plus louer votre maison, c'est ça ?
Je ne coupe pas tous les détails. Donc l'ARS, il faut savoir que c'est un arrêté préfectoral qui a été pris, un arrêté préfectoral. Mmh. Au bout d'un mois de la réception du recommandé, nous avons collé sur la façade de la maison l'arrêté d'insalubrité. Donc je peux vous dire que ma maman, âgée de 78 ans, c'est mon père qui a œuvré toute sa vie pour arranger cette petite maison et leur faire un complément retraite, puisqu'il était artisan et ma maman était conjointe artisan, dont n'a pas de retraite, évidemment, ou très peu.
Parce que le mot, Sophie, insalubrité, il est quand même très, très violent. Hein.
Ah oui.
Très violent. Alors, d'ailleurs, j'ai contacté l'ANA pour avoir des subventions. Parcours du combattant, effectivement, parce que les démarches sont un peu fastidieuses, mais bon, on a un très bon accompagnement au niveau de l'ANA, faut le dire. Sauf que il faut l'argent. Il y a une subvention de 30% suivant le classement de votre logement. Mais il y a aussi la pénurie d'artisans. C'est-à-dire que depuis le mois de juillet, j'attends des devis qui ne tombent pas, donc je prends du retard sur les travaux, que je vais essayer de faire avec mon frère, on va se dépatouiller pour essayer de trouver une solution. Mais
parce qu'il y a une pénurie d'artisans, Sophie, mais il y a aussi, les artisans ont aussi des pénuries de matériaux, hein, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que la filière entière rencontre des problèmes.
Alors il faut des artisans RGE. Donc tous les artisans ne sont pas agréés RGE. Et ensuite, c'est le technicien énergétique n'était pas d'accord avec le constat de l'ARS et m'a gentiment dit ce sont des petits fonctionnaires à haut pouvoir. Mais si j'avais su aujourd'hui dans le déroulement de la chose, j'aurais fait une contre-expertise. Parce que à Montpellier, il y a eu un procès dernièrement qui relatait dans les appartements qui étaient en location des blattes, des cafards. Je peux vous dire que le monsieur, le technicien énergétique m'a dit c'est injuste ce qu'on vous a fait. Oui. Alors quand le monsieur, l'auditeur, juste une petite chose, c'est que précédent, c'est les gens ne pourront pas le faire. Mais nous, nous sommes obligés de le faire. Parce que si vous ne le faites pas, c'est l'ARS qui met en marche les travaux et on vous saisit vos biens.
Oui, ouais, absolument. Restez avec nous, Sophie Gauguin, quand vous entendez ça, forcément, on se dit qu'on n'y est pas du tout. Et surtout, l'accompagnement est catastrophique.
Et en plus, qu'on a une crise du logement.
Oui.
Bah, c'est-à-dire que c'est tous les éléments que vous évoquiez. La conjoncture fait qu'à tous les niveaux, c'est bloqué. Entre les taux d'intérêt, les matériaux qui coûtent cher, la pénurie de main-d'œuvre dans les entreprises qui voudraient faire les travaux mais qui n'ont pas le personnel pour le faire.
Et sans côté les logements qui ne sont pas, entre guillemets, réparables. Parce qu'il y a quand même plein de logements aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va en faire parce que c'est impossible de les rénover.
Oui, et puis sans compter le fait que peut-être on aurait eu un effet de levier supplémentaire en travaillant sur les logements vacants déjà.
Ouais.
C'est-à-dire ceux qui sont vides, sur lesquels on aurait pu mettre des programmes.
Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça.
Spécifique.
L'INSEE prétend qu'il y en a 1,5 million et il y a des études réelles qui ont été faites. Là, en fait, les vrais logements vacants, il n'y en a pas tant que ça. Il y en aurait à peine 200 000 parce que logement vacant, on appelle ça, enfin, l'INSEE appelle logement vacant aussi un logement entre deux locataires. Donc forcément, quand au 1er janvier, il y a un locataire qui est parti en décembre.
C'est vrai
et on appelle ça un logement vacant, mais des logements vacants, c'est pas la solution, il n'y en a pas tant que ça au final.
Et il nous reste même pas deux minutes, il y a quelques temps on avait eu un maire d'une station de ski des Pyrénées, hein. On peut la nommer Piongali, où tout avait été construit dans les années 70-80, il dit moi j'ai 80 ou 90% de passoires thermiques qu'on ne peut pas mettre aux normes parce que c'est trop ancien. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie les bulldozers en disant aux propriétaires vous avez tout perdu, qu'est-ce qu'on va faire? Bérénice.
Je vous rejoins. C'est une question à adresser au gouvernement, aux parlementaires qu'on fait cette loi. À Paris, c'est pareil. Hein, les Haussmanniens. Alors, on dit qu'il y aura des dérogations pour les Haussmanniens, et je pense que le gouvernement va faire comme ça. Il y aura des dérogations aussi pour les logements à la montagne. Ce sera pareil.
Merci beaucoup, Bérénice de Ville-Fleurieu, d'avoir été avec nous. Merci à nos auditeurs. Merci beaucoup, Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, Olivier d'Artigol. Merci, Philippe David. Dans un instant. On change de décor, pour le coup on plonge carrément dans l'immobilier dans un instant avec Stéphane Scarella qui sera avec nous le directeur du salon Rent et pour m'accompagner Sylvain Lévy Lavancy sera avec nous cofondateur de Radio Immo. On sera ensemble jusqu'à 21h, à tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.